aujourd'hui à Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 17h30 en temps universel du lundi 20 mai 2019. Raissa Girondin et Abdourahmane Dia à la présentation. Voici les titres.
Au nouveau Premier ministre pour la RDC, le président Tshisekedi nomme Sylvestre Ilunga Ilukamba 4 mois après son élection.
Une nomination qui intervient alors que l'opposant Moïse Katumbi est rentré ce matin à Lubumbashi après 3 ans d'exil.
Nous serons là pour condamner là où il faut condamner. Nous allons applaudir là où il faut applaudir. Nous voulons avoir une opposition républicaine en République démocratique du Congo.
Au Mali, 7 personnes, dont 2 gendarmes et un douanier, ont été tuées dans le sud du pays.
Jacob Zuma, de nouveau à la barre, l'ex-président sud-africain comparé devant la justice dans une affaire de vente d'armes.
Washington et Téhéran toujours à couteau tiré. L'Iran répond aux dernières menaces du président Trump.
Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord, le journal.
Sylvestre Ilunga Ilukamba est le nouveau Premier ministre de la République démocratique du Congo. Âgé de 73 ans, ce professeur en sciences économiques a été nommé ce lundi par le président de la République, Félix Tshisekedi. Sylvestre Ilunga a annoncé la formation rapide de son gouvernement et s'est fixé quelques priorités. Le point avec Thierry Kamundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Je considère ma nomination comme une lourde responsabilité. Je m'engage à mobiliser toutes mes capacités pour pouvoir faire fonctionner la coalition au niveau du gouvernement et contribuer à l'amélioration des conditions de vie des citoyens congolais dans la transparence et la bonne gouvernance.
Né en 1946, Sylvestre Ilunga est docteur en sciences économiques appliquées depuis 1970. En politique depuis près de 40 ans, il a été tour à tour secrétaire d'État à l'économie, à l'industrie et au commerce extérieur, secrétaire d'État au plan, secrétaire d'État au portefeuille, conseiller principal à l'économie et finances à la présidence de la République, puis ministre du plan et des finances en 1990 sous Mobutu. Il revient aux affaires sous Joseph Kabila en 2003 comme secrétaire exécutif du comité de pilotage de la réforme des entreprises du portefeuille de l'État, fonction qu'il assumera jusqu'en 2014 à sa nomination à la tête de la Société nationale de chemin de fer du Congo. Prenant la parole aussitôt après sa nomination comme Premier ministre, Sylvestre Ilunga a rappelé d'entrée ses priorités.
Le président de la République, en me recevant, a esquissé ce qu'il considère comme le secteur important pour l'action du gouvernement, c'est le social, l'éducation, la santé, la sécurité et l'instauration de la paix.
Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
On reste en République démocratique du Congo, où Moïse Katumbi est rentré ce lundi dans son fief de Lubumbashi, 3 ans après son départ en exil. La vérité finit toujours par triompher. Je reviens pour la paix et pour la reconstruction nationale dans notre pays. C'est ce qu'il a déclaré, salué à son arrivée à l'aéroport par des milliers de partisans. Moïse Katumbi, exilé en Belgique, avait tenté en vain de revenir en août dernier pour déposer sa candidature à l'élection présidentielle. On y reviendra dans notre partie magazine.
Le patron de l'Organisation mondiale de la santé appelle à l'union face à l'épidémie d'Ebola en RDC. Le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus s'exprimait ce lundi à l'occasion de l'ouverture de la 72e assemblée de l'OMS. Ebola ne prend pas parti. Ebola, c'est l'ennemi public numéro un, a déclaré le docteur Tedros. Depuis le début de l'épidémie en août 2018, il y a eu quelques 1160 décès pour 1760 cas confirmés et probables selon l'OMS.
Au Tchad, moins 31 personnes sont mortes depuis jeudi dans l'est du pays au cours d'affrontements qui ont opposé agriculteurs et éleveurs. L'est tchadien est en proie à des conflits communautaires récurrents entre autochtones ouadaïens et éleveurs membres de tribus arabes. Mi-février, le président Idriss Déby Itno avait dénoncé un grave problème intercommunautaire dans l'est lors d'une visite dans la région.
Le Cameroun a célébré ce lundi sa fête nationale. Le président camerounais Paul Biya a présidé le défilé civil et militaire sur le boulevard du 20 mai à Yaoundé. Ce rendez-vous annuel intervient cette année dans un contexte sociopolitique tendu, marqué notamment par le conflit armé dans les régions anglophones. Les séparatistes, eux, ont appelé à 2 jours de ville morte les 19 et 20 mai. L'opposition, dont certains leaders sont en prison, a aussi boycotté les cérémonies.
Au Mali, 7 personnes, dont 2 gendarmes, 1 douanier, ont été tuées. L'attaque a visé les postes de contrôle de Kouri et Boura à la frontière avec le Burkina. Un casque bleu a aussi été tué à Tombouctou. Kassim Traoré nous fait le point depuis Bamako.
C'est à Kouri, à la frontière Mali-Burkina, dans le cercle de Yoroso, région de Sikasso, qu'il y a eu 7 attaques hier nuit contre le poste de contrôle de Kouri et de Boura. Le bilan est de 7 morts, 2 gendarmes, 2 douaniers, 2 chauffeurs qui sont des Ghanaiens et 1 civil. Ils ont été tués par des hommes en armes venus à bord de 4 motos et de 2 pick-up, nous confirme un élu local de Yoroso. Parmi les 7 victimes, il y a une gendarme qui a été tuée. Quant à l'attaque de Boura, elle a été repoussée. Un élément de force de sécurité a été légèrement blessé et le sous-préfet est sain et sauf. 4 suspects ont été appréhendés et mis à la disposition de la brigade territoriale de Kouri. Les recherches, selon le communiqué du gouvernement, se poursuivaient dans la zone. Par ailleurs, le samedi dernier à Tombouctou, un casque bleu nigérian a été la cible d'une attaque. Vers la région de Kidal, 3 autres soldats du contingent tchadien ont été blessés dans l'explosion d'une mine visant une unité de la force près de Tessalit. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En Afrique du Sud, de nouvelles comparutions de l'ex-président Jacob Zuma devant la justice. Il tente de se débarrasser d'accusations de corruption dans une rocambolesque affaire de vente d'armes. Clairement Gibourg.
L'ancien chef de l'État sud-africain est soupçonné d'avoir touché pour 4 millions de randes, soit plus de 170 millions de francs CFA de pots de vin du groupe français de défense Thales lors de la signature d'un contrat d'armement de près de 4 milliards d'euros conclu en 1999. Les deux parties ont toujours nié ces allégations. Co-accusé, le groupe Thales a également sollicité l'abandon des poursuites qui le visent. La comparution de Jacob Zuma est un nouvel épisode de ce feuilleton politico-judiciaire à rebondissement qui dure depuis 20 ans. Les débats doivent se poursuivre jusqu'à vendredi devant la haute cour de Pietermaritzburg qui décidera de l'ouverture d'un procès ou de l'abandon définitif des accusations qui pèsent sur l'ex-chef de l'État. Englué dans de nombreux scandales, Jacob Zuma a cédé en décembre 2017 sa place à la tête de l'ANC au pouvoir à son vice-président Cyril Ramaphosa.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La réaction n'a pas tardé. Le ministre iranien des Affaires étrangères a répondu ce lundi aux dernières menaces de Donald Trump. Mohammad Javad Zarif affirme, je cite, que les railleries génocidaires du président américain ne mettraient pas fin à l'Iran. Morgane Guériec.
L'hôte de la Maison Blanche espère réussir là où Alexandre le Grand, Gengis Khan et les autres agresseurs ont échoué, a écrit Zarif sur son compte Twitter en faisant référence aux 2 conquérants étrangers ayant dominé la Perse, l'ancien nom de l'Iran, à une période donnée de son histoire plurimillénaire. Les Iraniens sont restés debout pendant des millénaires alors que leurs agresseurs sont tous partis. Le terrorisme économique et les railleries génocidaires ne mettront pas fin à l'Iran, a ajouté M. Zarif dans une réponse au dernier message contre l'Iran publié par Trump la veille sur le même réseau social. Si l'Iran veut se battre, ce sera la fin officielle de l'Iran. Plus jamais de menaces à l'encontre des États-Unis, avait écrit Trump. Ne jamais menacer un Iranien. Essayez le respect, ça marche, a également rétorqué Zarif au président américain. Les tensions entre Washington et Téhéran connaissent un nouvel accès depuis une dizaine de jours, après l'annonce d'un renforcement de la présence militaire américaine au Moyen-Orient pour faire face à de présumées menaces iraniennes.
Les marines chinoises et américaines se sont mesurées ce lundi pour la deuxième fois en l'espace de 2 semaines en mer de Chine méridionale. Beijing proteste contre la présence d'un navire de guerre de Washington. Des unités navales et aériennes de l'armée chinoise ont donné l'ordre au destroyer américain Preble de s'éloigner après qu'il eut approché le récif de Scarborough, a rapporté un porte-parole militaire sur le site du ministère chinois de la Défense. Scarborough est revendiqué par Beijing, mais aussi par les Philippines et Taïwan.
Le géant américain Google a annoncé qu'il coupait les ponts avec le groupe chinois Huawei, une décision lourde de conséquences pour le groupe chinois qui risque de ne plus offrir Gmail ou Google Maps à ses clients. Cette annonce fait suite à la décision spectaculaire mercredi du président américain Donald Trump, en plein bras de fer commercial avec la Chine, d'interdire aux groupes américains de télécom de commercer avec des sociétés étrangères jugées à risque pour la sécurité nationale.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique, on en parle dans la Minute Éco présentée par Nani Talani.
La Banque africaine de développement a investi 199 780 milliards de francs CFA au Togo. Selon le magazine Togo First, ces fonds ont été investis dans 12 projets encore inachevés et portant sur la transformation agroalimentaire, la réhabilitation des routes, la préservation des côtes et la réforme économique. La BAD veut aussi soutenir le plan visant un taux d'électrification de 40% au profit de 300 000 ménages togolais d'ici 2022. Elle déplore toutefois le non-respect des délais d'exécution des projets et le défaut de justifier à temps l'utilisation des fonds. La Somalie a adopté ce lundi une loi sur le secteur pétrolier ouvrant la voie à une exploration dans ses eaux. Son économie en difficulté pourrait potentiellement s'améliorer si des richesses en hydrocarbures étaient découvertes. La nouvelle législation permet la création d'institutions chargées de superviser le secteur et la gestion des revenus. Pour terminer, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis estiment qu'il n'y a pas matière à augmenter la production de pétrole en dépit de la chute enregistrée en Iran et au Venezuela. Le ministre de l'énergie saoudien Khaled Al-Faleh se dit même inquiet d'une hausse des stocks mondiaux. Il appelle à la prudence afin d'éviter la chute des prix de l'or noir comme ce fut le cas en 2018. Les Émirats Arabes Unis, de leur côté, appellent à maintenir le niveau de production décidé par l'OPEP l'an dernier, soit 1,2 million de barils par jour.
Et c'est la musique d'ambiance qui annonce le sport. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Aïssa, bonsoir à tous.
Finale Coupe de la Confédération. Kodjo Laba donne un avantage à Berkane.
Oui, la renaissance sportive de Berkane peut remercier son attaquant Kodjo Fodo Laba. Le Togolais a offert une belle option au club marocain en finale aller contre les Zamalek 1-0. L'attaquant Berkane a inscrit l'unique but de la rencontre à la 94e minute. On écoute Kodjo Laba.
Je dirais que ce n'est pas un match très très difficile vu que durant tout le match on a eu beaucoup d'occasions. Puisqu'il n'y avait pas de réussite. Il y a eu la balle, le poteau, le gardien qui fait certains arrêts. J'espère que le match de retour, on aura plus de réussite, plus de chance. Je marque le but de la victoire aujourd'hui, mais ce n'est pas encore fini. On part au Caire pour aller ramener le trophée, Inch'Allah.
Kodjo, là-bas au micro d'Amine Birouk, notre correspondant à Casablanca. Le match retour aura lieu dimanche prochain au Caire en Égypte donc. Et les Marocains voudront conserver leur avance sur le Zamalek pour soulever le trophée, comme le dit Alain Traoré, l'attaquant burkinabé du club marocain.
C'était vraiment un très bon match, très très tactique. Voilà, les Zamalek nous ont posé beaucoup de problèmes, surtout défensivement, et ils explosaient en contre. Voilà, mais il fallait bien gérer ces matchs. Je pense qu'on a bien su bien les faire et on part la semaine prochaine avec un but d'avance. Et je pense qu'on va tout faire pour conserver ce but d'avance là-bas.
Football toujours au Burkina Faso. On connaît le nom du champion.
Il s'agit de Raïmo FC qui a battu le Raï Club du Kadiogo 2-1 lors de la dernière journée et qui profite du nul 0-0 de Salit devant l'USFA. Notre correspondant à Ouagadougou, Salif Kabouré, a suivi cette 30e journée riche en suspense.
Monté en première division depuis la saison 2016-2017, Raïmo FC est un club créé par l'ancien international burkinabé Raïmo Ouédraogo. L'équipe, qui est aussi entraînée par l'autre étalon des années 2000, Bourema Zongo, a été fondée en 2004.
C'est pas facile pour des jeunes gens qui ont 18 ans, 16 ans, 17 ans aujourd'hui, qui sont champions du Burkina. Il faut le faire. Moi, je les félicite.
C'est un centre de formation qui allie sport et études et selon auront trahi Ouédraogo, l'objectif, c'était de redonner au football burkinabé ce qu'il lui a offert.
En cours de route, les enfants sont venus me voir un matin et m'ont dit que bon, président, nous on va aller pour le titre. J'ai dit, bon, si c'est ça, on va le soutenir et Dieu merci, ils ont tenu parole.
Le sac de Raïmo FC en championnat cette saison s'est fait dans le suspense car jusqu'à l'avant-dernière journée, Salitas tenait la tête du peloton. Ouagadougou, Salif Kabore, VOA Afrique.
Et l'Ivoirien Nicolas Pépé est le vainqueur du prix Marc-Vivien Fouet-Yacouba.
Oui, l'international ivoirien a été sacré meilleur joueur africain de la Ligue 1 en France. Il a devancé les deux autres finalistes qui sont le Tunisien Wabi Kazri de l'AS Saint-Etienne et le Sénégalais Ismaël Assar du Stade Rennais. Cette saison, Nicolas Pépé a marqué 22 buts et donné 11 passes décisives. Il succède ainsi au Camerounais Karl Toko Ekambi, vainqueur du trophée la saison dernière.
Merci, c'était Yacouba Ouédraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, Raissa Girondin et Abdourahman Dia, toujours avec vous à présent les dossiers du jour.
L'opposant congolais Moïse Katumbi est de retour ce lundi à Lubumbashi en République démocratique du Congo. Son retour fait suite à la décision de la Cour de cassation d'annuler sa condamnation à 3 ans de prison. L'ancien gouverneur du Katanga n'avait pas pu se présenter à la présidentielle du 30 décembre dernier, ayant été bloqué à la frontière par l'ancien régime. Pour en savoir plus sur son projet politique en RDC, Raissa Girondin a joint à Bruxelles, en Belgique, Moïse Katumbi, juste avant son retour.
Je suis coordonnateur de la plateforme politique de la Mouka parce que nous avons changé de la plateforme électorale à la plateforme politique. Nous avons un grand rôle à jouer. Nous allons représenter la population congolaise qui nous fait confiance. Nous allons défendre les antivaleurs. Nous serons là pour condamner là où il faut condamner. Nous allons applaudir là où il faut applaudir. Nous voulons avoir une opposition républicaine en République démocratique du Congo.
Mais quand on voit que Martin Fayoulou continue à demander la vérité des urnes, quelle est concrètement votre position?
Mon candidat avant était Félix Tshisekedi jusqu'à Genève, jusque dans le bureau là où on était à la fondation Kofi Annan où j'avais fait même une motion. Je suis resté avec Martin Fayoulou parce que le résultat est que Martin Fayoulou était le candidat de l'opposition. Nous devons aller de l'avant. Nous ne voulons pas créer le chaos dans notre pays. Pour le moment, qu'est-ce que nous choisissons, nous, en tant que leaders? Nous choisissons la paix dans notre pays et surtout la démocratie et défendre strictement notre constitution.
Alors, une fois rentré, concrètement, quels sont vos projets et pourquoi votre retour est si important pour les Congolais?
Les Congolais savent ce que je fais pour le Congo. Mon bilan, surtout quand j'étais gouverneur de la province du Katanga, ils ont vu le travail que je fais, ils ont vu le résultat, le bilan. Quand je rentre, c'est pour être avec le mien, consoler le mien qui ont vécu l'enfer. Vous savez ce combat de l'opposition. Mon frère Félix, mon frère Martin, mon frère Jean-Pierre Bemba, nous nous sommes battus pour qu'on ne puisse pas toucher à la Constitution, pour ne pas avoir un troisième mandat. Donc le plus important pour nous, c'est l'avenir de notre pays.
On vous a rendu votre passeport congolais et vos problèmes judiciaires ne sont plus. Est-ce qu'on peut dire que l'arrivée au pouvoir du président Félix Tshisekedi a faciliter les choses quant à votre retour au pays?
Vous savez, le passeport, d'abord, c'est un droit. Priver quelqu'un de son passeport, c'est un crime. Aujourd'hui, heureusement, il y a eu changement de régime. Il n'y a pas eu ingérence. À l'époque, le pouvoir de M. Kabila, il y a eu ingérence même dans la justice. Aujourd'hui, on peut dire le droit dans notre pays. Il y a des choses positives aujourd'hui. La liberté d'expression. Il y a des meetings à gauche, à droite de l'opposition. Mon frère Martin Fayoulou est en train de sillonner le pays. Ce que nous devons faire, c'est d'avoir une opposition constructive, voir l'avenir de notre pays. À l'époque, quand il y avait un meeting, on devait dénombrer d'abord combien de blessés, combien de morts et combien de gens étaient incarcérés après le meeting. Mais nous allons être une opposition républicaine ferme et nous allons féliciter là où il faudrait féliciter.
Joint à Bruxelles avant son retour aujourd'hui à Lubumbashi, c'était l'opposant Moïse Katumbi, coordonnateur de la plateforme Lamouka.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en RDC, à Lubumbashi évidemment sur le 102.8 FM.
Célébration ce lundi de la fête nationale du Cameroun, placée sous le signe de l'unité dans un contexte sécuritaire toujours préoccupant dans les zones anglophones. Une situation qui a des incidences sur les villes francophones limitrophes de ces régions. C'est le cas de la ville de Mbanga, à 227 km de Yaoundé. Reportage sur place de notre correspondant Emmanuel Juntap.
Les militants du MRC à Mbanga préparent la cérémonie d'inauguration du siège de leur parti. Pas question pour eux de participer aux activités de la fête de l'unité. D'ailleurs, le mot d'ordre du MRC cette année est le boycott du défilé le 20 mai. François Xavier Yankoua, président communal du MRC à Mbanga.
Le défilé de 20 mai, la fête nationale, c'est une unité. Qui dit Cameroun oriental, Cameroun occidental, quelle est la société que nous aurons pour fêter le 20 mai? Nous ne pouvons pas monter au-dessus des carrés de 1850 morts.
La crise post-électorale a aussi créé une faille sur la question de l'unité nationale, explique un autre militant du MRC, sous anonymat.
Je ne sais pas pourquoi je dois être concerné, puisque nos militants et notre leader, le professeur Maurice Kamto, est en prison de Conakry depuis un certain temps. Si aujourd'hui nous acceptons que nous allons décider, c'est comme si peut-être nous cautionnons sa prison.
En Banga, la crise anglophone se fait beaucoup sentir. La ville a accueilli un grand nombre de ressortissants des régions anglophones. De nombreux déplacés internes sont venus s'installer ici, au quartier 3, en Banga. Roger est l'un d'eux. Il a quitté Bamenda, dans le nord-ouest, depuis un an. Il est conducteur de moto-taxi.
Depuis que je suis ici, je dois emprunter la moto à 2500 francs par jour chez des amis pour travailler. Avec cette crise anglophone, je ne sais quoi faire parce que nous souffrons réellement ici.
Cette souffrance, des résidents de Mbanga la vivent au quotidien. C'est le cas des conducteurs de moto-taxi.
Depuis que cette crise anglophone a commencé là, que quand on n'arrive plus à travailler, la nuit, on n'arrive plus à travailler parce que la police fait la patrouille. De 21h jusqu'à l'aube, on arrête. Vraiment, il faudrait que le chef d'État essaie un peu de voir notre problème. Parce que ça ne va pas, vraiment. Nous sommes vraiment des responsables. Le dehors est dur. Quand tu sors le matin pour rentrer avec 2000 francs à part, ce n'est pas facile.
C'est dans ce contexte que les autorités de la ville ne cessent de multiplier les messages de sensibilisation sur le vivre ensemble, des messages qu'une frange de la population dit accepter.
Après l'arrivée de notre sous-préfet, un grand prôneur de l'unité de vivre ensemble. Mbanga, c'est un autre monde. Vous allez trouver les gens de tout horizon qui vivent en convivialité, dans la sympathie.
Malgré le problème d'insécurité, tout se passe bien. Les autorités ont pris toutes les dispositions pour que chacun se sente comme chez soi.
La fête nationale a été instituée le 20 mai 1972 pour sceller l'unité et promouvoir le vivre ensemble. Deux notions qui sont aujourd'hui sujets à débat 47 ans plus tard. Emmanuel Juntap, Mbanga, pour VOA Afrique.
Bonjour, c'est Nathalie Barge pour vous rappeler de ne pas manquer le monde au féminin de VOA Afrique, mardi et samedi à 19h05 temps universel.
Le monde au féminin.
Une émission dans laquelle on aborde les questions qui concernent et préoccupent les femmes et les jeunes. Un espace réservé à tous.
Le monde au féminin.
Un espace qui donne la parole à celles et ceux qui osent aller de l'avant comme vous. Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05 temps universel sur VOA Afrique.
La pratique de l'homosexualité n'est pas tolérée au Togo, comme dans beaucoup de pays africains d'ailleurs. Cette communauté obligée de vivre en cachette existe pourtant dans ce pays. Les LGBT, lesbiennes, gays, bisexuels et transsexuels tentent malgré tout de se faire entendre. Un reportage de notre correspondante à Lomé, Kay Lawson, à l'occasion de la Journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie commémorée le 17 mai dernier.
Je m'appelle Vanessa. En me voyant, on me voit en tant qu'homme. Mais intérieurement, et je me sens femme.
Elle, c'est Vanessa, un membre de la communauté des transgenres du Togo.
J'ai aujourd'hui 32 ans, mais j'ai jamais eu de relation avec une femme. Je suis née comme ça, et je ne peux pas le faire aussi. Quel que soit ce qu'on me propose aujourd'hui pour avoir des relations avec une femme, je ne peux pas.
Obligée de vivre dans la clandestinité, compte tenu du poids de la société et de la loi, la petite communauté ne rate aucune occasion pour se défouler. Souvent, c'est chez Vanessa qu'on se retrouve pour des séances make-up et essayages de nouveaux fringues. Pour la plupart d'entre eux, le coming out n'est pas à l'ordre du jour.
Pour le moment, mes parents ne sont pas encore au courant, mais voyant mon attitude, ils savent que je suis efféminé dès le bas âge. À cause de la culture africaine, je n'arrive pas à leur dire directement que je suis trans.
Victime de violences physiques, la communauté LGBTQ du Togo ne peut pas compter sur la justice car la loi criminalise l'homosexualité.
J'ai passé une semaine là-bas, il y a la garde à vue. Le chef là, a ordonné qu'on les parti, mais le police en question avait décidé de nous garder.
J'ai déjà été agressé maintes fois. Moi, je sors de chez moi chaque jour comme si c'était le dernier. Parce que je ne sais pas quand je pourrais être frappé jusqu'à mort.
Le code pénal togolais en son article 392 définit l'homosexualité comme tout acte contre nature commis avec une personne du même sexe que soi. Elle est punie d'une peine d'emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende d'un à trois millions de francs CFA. Kay Nelson pour VOA Afrique, Lomé.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Polémique au Burkina Faso au sujet du déclassement annoncé d'une partie de la forêt de Kwa à Bobo-Dioulasso dans l'ouest du pays. La forêt en question est classée depuis 1936, mais la Chine veut y construire un hôpital de référence avec l'aval du gouvernement, une initiative à laquelle s'opposent les défenseurs de l'environnement. Cette forêt est devenue ces dernières semaines l'un des sujets les plus débattus sur les réseaux sociaux dans le pays. De Ouagadougou, la correspondance de Lamine Traoré.
Sur les 350 hectares que compte cette forêt, 16 vont être détruits pour construire un centre hospitalier universitaire. Le gouvernement n'avait jusque-là jamais eu une position claire sur le choix du site. Mais jeudi dernier à l'Assemblée nationale, le Premier ministre a laissé croire que c'est la Chine qui a imposé le choix de la forêt au détriment des autres sites proposés par le gouvernement.
Un des sites que nous avions proposé n'était pas loin de là où les Chinois ont décidé d'implanter l'hôpital. C'est-à-dire la forêt.
Christophe Dabiré.
Nous avions des engagements de la part de la République populaire de Chine de reboiser, puisqu'on l'a dans 16 hectares. Les Chinois nous ont dit que si nous en sommes d'accord, même les arbres qui sont dans le site qu'ils ont choisi, ils vont les déterrer et aller les replanter dans la forêt classée. Devant un investissement de 35 milliards, qui est une subvention, avec à l'appui cette promesse de notre partenaire chinois, nous étions fondés à aller dans le sens de leur accorder cet espace-là.
Personne n'ignore l'importance de l'arbre dans un pays sahélien.
Moussa Zerbo, député, par ailleurs président de la commission du développement rural, de l'économie et des changements climatiques de l'Assemblée nationale.
Dans un pays désertique où le slogan est qu'on puisse vaille que vaille planter des arbres, pour aider à stopper l'avancée du désert, on peut avoir notre forêt et avoir également notre hôpital. Pourquoi vaille que vaille détruire la forêt pour l'hôpital?
Même réaction au niveau des spécialistes de l'environnement.
L'hôpital, s'ils s'entêtent l'implanter, les produits chimiques et autres, les désertions qui se feront là, la nappe sera polluée.
Drissa Milogo, secrétaire général du syndicat de l'environnement.
C'est un bassin. Il faut noter bien que c'est la plus grande réserve d'eau dans l'Afrique occidentale après le Fouta Diallo. Elle peut alimenter tout le Burkina Faso, cette réserve, et même nos voisins. C'est dire que c'est ce qu'elles veulent outrepasser, intoxiquer donc cette population.
Déclasser une partie de quoi est même suicidaire.
N'est-ce pas suicidaire de détruire le peu qui reste?
Colonel Léonard Zouré, ancien directeur général des eaux et forêts.
Depuis les indépendances, tout ce que le colon a fait, nous n'avons même pas ajouté, nous n'avons fait que laisser dégrader et maintenant on veut tout détruire.
Devant les députés jeudi, le Premier ministre Christophe Dabiré, dont le gouvernement n'a toujours pas donné une position claire sur le choix du site, a tenté de rassurer.
Je prends la responsabilité de dire à la représentation nationale que nous allons réaliser le projet en faveur des populations de Bobo sans penser que nous sommes en train de remettre en cause la protection de l'environnement.
La forêt de Kouah a été classée en avril 1936, il y a 83 ans cette année. Le sankariste Nestor Bassier, qui est le ministre de l'Environnement, a réaffirmé à deux reprises qu'il n'était pas question de déclasser cette forêt. Mais ces dernières semaines, il semble avoir mis de l'eau dans son vin, reconnaissant qu'on peut déclasser cette forêt si on suit les procédures. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
La fin de cette édition, la mise en onde Lionel Gaïma, la conseillère John Kamen, sur présentation Abdourahmane Diarra et sa Gironde.
On reste connecté sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour plus d'actualités. Excellente suite de programme.